Bon midi, vous êtes sur les ondes de Boulevard 101. Mon nom, c'est Yann Marceau. Denis Gravel qui est en studio. Pascal CV qui est là. Salut, Denis.
Hello.
Comment ça va, mon ami? T'as de l'air frileux aujourd'hui. Là.
Ouais, ben, magané un peu. Je traîne un rhume depuis 8 mois à peu près.
Mais là, sans farce ou avec. Parce qu'il y en a qui le traînent depuis 8 mois.
Sérieusement, ça fait au moins 3 semaines que ça niaise. Puis là, ça a décollé dans la dernière semaine. Hier après-midi, je me sentais mieux. Ça allait bien. Puis, tu sais, on fait de la radio pendant 4 heures, fait qu'on s'irrite la gorge un petit peu quand on a les cordes vocales irritées puis la gorge sensible. Le résultat, c'est que j'ai passé la moitié de la nuit à m'étouffer. Parce que, tu sais, quand la gorge est trop irritée puis tu fais rien que tousser puis t'es pas capable.
Ça pique, fait que ouais. Là, ça t'endort pas.
Fait que ça donne cette superbe voix que j'ai aujourd'hui.
Mais t'aimes-tu toi, rocker,
ouais.
Rocker,
ouais, ouais,
malade.
Je suis fatigué, rocker, magané.
T'as l'autre
aussi,
en avant que ça, comme dirait au Saguenay, ça froque. Très épaisse sur le dos, comme j'ai jamais vu ce gars-là habillé en ours de même.
Hey, c'est ma chemise Costco, 30$.
Ah, j'ai pas parlé du look, elle est belle.
Elle est belle, hein?
Mais elle est très
c'est
large
juste qu'on
et
est
épaisse.
Juste 800 à Québec à l'avoir.
Mais c'est rare, je te vois habillé de même, fait que toi aussi, tu fais le moyen. Là.
Je sais pas, peut-être un peu frileux, je sais pas.
Ben, nous autres, on vient de voir un gars qui s'est fait opérer au coude, qui est magané puis qui souffre pour vrai. Puis on va se plaindre de nos petits mots à cette heure qui est parti.
Mais toi qui es dans ce monde-là, là, ouais. La lutte a trippé longtemps là-dessus.
Ouais.
Ces gars-là vivent toujours avec des blessures. Là.
Oui, puis faut qu'ils fassent attention. Ce qui arrive, c'est que le beat de vie d'un lutteur professionnel, c'est que ça n'arrête pas. Hein. Raw prend pas congé jamais à la WWE. Fait qu'il y a des galas à toutes les semaines. Il y a des house shows en plus. Ils font de la tournée d'aréna.
Ouais.
Dans les années 80, c'était des horaires qui étaient intenables, ce qui faisait en sorte que les gars luttaient blessés. Et pour lutter blessés, ben, ils prenaient des antidouleurs. Puis, étant donné qu'ils étaient sur la route 365 jours par année, ben, tu prends de l'alcool, tu prends des drogues récréatives, puis le mélange de tout ça a donné des histoires d'horreur incroyables. Maintenant, les horaires sont un petit peu plus lousses. Maintenant que... Je dirais que l'humain a peut-être repris sa place là, dans cette business-là. Les gars sont mieux payés maintenant qu'il y a de la compétition. Ça fait en sorte que les gars sont mieux suivis aussi. Il y a eu les scandales des stéroïdes. Il y a eu les scandales des commotions cérébrales avec l'histoire du lutteur canadien Chris Benoit, que tu connais peut-être.
Ça a vraiment mal fini, lui.
Ouais, un cocktail terrible.
Il a tué sa famille au complet.
Il a tué sa famille avant de s'enlever la vie. Ses deux enfants, sa femme, et il s'est enlevé la vie par la suite. Puis les études montrent que c'est beaucoup de coups à la tête ajoutés à la prise d'antidouleurs, la prise de drogue, la prise de boisson. Il était devenu malade mental, littéralement. Je veux dire, il y a des cas aussi d'anciens joueurs de la NFL, des histoires qui ressemblent à ça un peu. Maintenant, les gars sont plus suivis, ce qui fait en sorte que quand ils sont blessés, ben, ils sont en mesure d'arrêter et d'être payés, ce qui n'était pas le cas avant. Ça fait en sorte que maintenant, ils sont capables comme Steve, ben Steve le fait, je veux dire, c'est une partie de sa vie, mais il y a une job de jour, là, mais les gars, faut qu'ils se soignent, puis faut qu'ils prennent soin d'eux autres, puis faut que tu le rappelles une fois de temps en temps. Je l'ai dit toute la fin de semaine à Steve, tu sais, prends le temps, là, je sais que t'aimes ça à lutte, là, je sais que t'as hâte de revenir, mais prends le temps de te guérir, ça
pour
vaut pas la peine.
Revenir.
Oui, on a rien qu'une santé, prends-en soin, tu sais.
Ouais. Puis de voir l'âge aussi des lutteurs, moi, ça me surprend, je veux dire, tu sais, j'ai 40 ans, des fois, j'ai mal partout, je vois des lutteurs professionnels de plus de 50 ans qui spinent d'un bord, spinent de l'autre. Je veux dire, Steve m'avait parlé d'un gars qui s'appelle PC Ho, ça se peut-tu?
Oui, Pierre-Carl Ouellet.
Puis lui, il avait peur de rien, là.
Non.
Même à l'âge qu'il a, il a peur de rien.
Écoute, le légendaire lutteur Sting a fait son match de retraite il y a quelques mois à peine, puis il se tirait encore des coursives dans les arénas, dans des tables, puis tout ça. Puis, je veux dire, et t'as des lutteurs maintenant à un âge avancé qui gardent une forme resplendissante parce que les gars mangent mieux, les gars s'entraînent mieux, les gars ont un meilleur régime de vie. Les lutteurs canadiens Edge, Christian, qui sont dans la quarantaine avancée, Chris Jericho commence à ralentir un peu, mais quand même dans une forme exceptionnelle. AJ
les
Styles.
Shapes, les shapes, pour vrai,
ben
même
oui.
Les amateurs. Ben si c'est pas amateur, mais mettons, c'est pas professionnel, ils font pas juste ça à longueur de journée, ils ont aussi des travails, des emplois. Je veux dire, tu pognes 2 minutes, là. Quand la fille ou le gars commence à s'entraîner pour la lutte, ce que son corps devient, sans s'en rendre compte nécessairement à lever des poids, là, juste par l'entraînement physique que ça requiert de faire ça, c'est du tout au tout. Là.
D'ailleurs, Denis,
oui.
Le soir du gala,
uh-huh.
Je t'ai pas raconté ça.
Qu'est-ce qu'il y a?
Pascal, quoi?
Non, je pensais pas t'aller raconter
ah,
ça.
Ah oui, OK, oui. Oui, vas-y.
Pascal a vu un lutteur qui... rentrait dans ses cordes à elle.
Oui.
Et elle elle n'a pas dit ça comme vocabulaire.
Tu te promènes à côté d'athlètes costauds en maillot de bain toute la soirée. À un moment donné, tu vas en trouver un à ton goût.
Les mots que j'utilise là, c'est juste pour avoir de l'air pervers. Parce que si je répète ce qu'elle m'a dit, ça pourrait surprendre bien les gens.
C'était lequel?
Mais ça rentrait, je ne le dirais pas.
Okay.
Mais ça rentrait comme dans ses cordes.
Étais-tu dans une équipe ou il était en solo?
Tu sais, Yann, je te parle pas souvent de ça, mais lui, ce serait correct.
OK.
OK. Okay. Là, je regarde. Ouais, c'est correct. Et,
il luttait contre qui, hein?
Denis.
Dis-moi pas son nom, fais juste me dire il luttait contre qui.
La soirée avance et tout d'un coup, le gars fait son combat et arrive dans le vestiaire en sueur.
Oui.
Puis, tu sais, les muscles pompés et tout ça, puis il était tout sourire. Et là,
Pascal, je démissionne.
Qui avait le rôle d'une méchante ce soir-là, a, comment dirais-je, tenu à le féliciter en mettant la main sur son trapèze.
Oui.
Ensuite, deux secondes plus tard, sur son épaule.
C'est pas vrai.
Sur son tricep.
Ouais.
Excuse, papa.
Et sur son avant-bras.
Pour les gens qui sont sur le Twitch, je vais mimer, OK?
Non!
C'est beau. Félicitations. Ouais. C'est un beau travail.
Oui, c'est ça. Tu sais, c'est comme...
Je trouve pas que c'est exagéré, Yannick.
Il a fallu qu'elle tente tous les muscles.
Le gars me dit, c'était ici le massothérapeute? Non, Je sais pas, mais j'ai fait semblant de rien. T'sais, j'étais un bon chum pour Pascal. J'ai pas dit un mot.
Tout le monde a eu un fist bump de Pascal en revenant backstage, mais lui, il a eu le traitement total. Là.
Mais là, je regarde Pascal, elle est rouge comme une tomate.
Parce que quand je me reviens, je me suis pas rendu compte, OK? Puis je me suis revirée vers Yann, qui était focus depuis une heure tout le long, là, OK? Concentré et sa tête de clown qui me fixait au loin.
Les lutteurs ont leur effet, hein? Même une dame de glace comme Véro Bergeron a fondu en avant d'un lutteur. J'étais là, je l'ai vu live.
C'était-tu le collier de perles aussi?
C'est... non, mais pas... OK, fait qu'il était tag team. C'est vrai qu'il est beau. Des beaux bonhommes.
C'est
beau
bonhomme.
Non, moi, je démissionne et déménage.
Il y a plusieurs années de ça, quand la WWE était venue à Québec, on était en arrière-scène parce qu'on avait des meet and greet avec certains lutteurs.
Ouais.
Puis le premier lutteur qui s'est pointé, c'est Edge. Si tu vas voir des photos du lutteur Edge au début des années 2000, tu vas voir que le gars a un look assez impressionnant. Puis le gars est quand même assez haut, assez baraqué. J'ai vu Véro devenir... des fois, on voit des vidéos en noir et blanc de la Beatlemania.
Il mesure 2 mètres, Denis.
Ouais. Ah non. Le gars est rentré, est venu rouge. Je pense qu'elle a manqué perte connaissance, puis elle s'attendait pas à ça pantoute.
Mais là,
je te le dis. On l'a déjà raconté en onde, puis elle l'avoue, elle a perdu le contrôle d'elle-même.
Le gars mesure 2 mètres, il pèse 240 livres, puis il a pas... un once de gras.
Non, puis le gars, à son âge, est encore top shape et est encore capable de lutter. Là.
C'est incroyable.
Exceptionnel.
Fait que Pascal, t'es pas la seule.
Non.
C'est...
Mais Véro a pas eu l'audace de tâter les muscles un à un, par
quoi?
Exemple.
Je m'en suis même pas rendu compte. C'est ça le putain de problème.
T'as perdu le contrôle de ton corps.
Hein? C'est juste être sûr que personne n'était blessé.
Encore là, tout le monde avait fait ça, on finissait en prison.
Oh!
Ouais, c'est ça.
Elle
a perdu le contrôle de son corps, a poigné les muscles, puis sa jaquette était rendue à terre.
Véro dit, j'ai perdu tous mes moyens. Je peux même pas m'obstiner avec ce que Denis dit.
Écoute, je l'ai vu une fois de même. Puis c'est ce fois-là.
Ben, y a-tu parlé?
Non. Elle l'a juste vu rentrer, puis elle a...
Les ovaires applaudissaient.
Oui!
Ils sont charismatiques.
Aïe.
Oh, ouais. Hey, parlons un peu d'actualité, cher ami, si tu le veux bien.
Oui. S'il veut pas, on le sort.
Midi 10!
Pascal dit on parle d'actualité. j'ai quelques critiques à l'égard du chef de police de la ville de Québec que j'aime bien, que j'ai eu la chance de rencontrer. C'était dans ses premières rencontres avec le merveilleux monde de la radio de Québec lorsqu'il s'est pointé ici. C'est pas un gars qui est très... c'est un gars qui est très timide, très à ses affaires, semble très professionnel, aime bien ça rester en retrait. Sauf qu'à un moment donné, quand t'es le chef de police, tu représentes quand même la police à Québec, tu dois sortir plus souvent, que ce soit pour les bons côtés puis les mauvais côtés, c'est-à-dire, savez-vous quoi? Là, il se passe quelque chose à Québec, il y a une guerre qui s'entame, les policiers sont là, sont tous avertis qu'il n'y aura pas de passe-droit. Ceux qui viennent faire du trouble à Québec, que vous soyez un Hells Angels, que vous soyez de la gang de Picturemel ou que vous soyez d'une gang de Montréal, bien, nos policiers vont être derrière vous puis on va vous chasser jusqu'au dernier. Il est incapable de faire ça et ça, à mes yeux, à moi, c'est sa job de chef de police de rassurer sa population et il reste carrément à l'écart. Mais à un moment donné, bien, ils ont dû parler avec le chef de police des délais, parce qu'il y a un coroner qui rapportait qu'il y a eu un décès, puis que c'était le délai qui a eu lieu entre le moment de l'appel au 911 versus le moment où les policiers se sont rendus sur place. C'est un délai qui était très exagéré. Et Denis Turcotte, qui est le chef de police de la Ville de Québec, avait dit que Québec était parmi les meilleurs pour ce qui est du délai de réponse.
Ce qui n'est pas vrai.
Bien, les journalistes ont fait leur job, on va les féliciter. On est parmi les pires, en fait. On est pas mal parmi les pires en ce qui a trait au délai de réponse. Puis il y a plusieurs raisons à ça, on y reviendra plus tard. Mais de voir qu'à Gatineau, le délai moyen pour un appel d'urgence, c'est 4 minutes 10. Montréal, 6 minutes 10. Québec, on est à 10 minutes. Quand c'est un problème urgent, c'est-à-dire, je sais pas moi, quelqu'un qui est en train de poignarder 3-4 personnes, 10 minutes à mes yeux, à moi, écoute, c'est un peu long. Là.
Dans la tragédie du lac Saint-Charles, ça a pris 13 minutes avant qu'un policier arrive sur les lieux alors que c'est un appel considéré urgent en lettres majuscules. Je comprends que la Ville de Québec est un territoire étendu. Il y a beaucoup de choses là-dedans, Yannick. Premièrement, le chef de police soit n'était pas au courant, soit nous a menti en pleine face quand il a dit qu'on était efficace au niveau des délais d'intervention. Je ne sais pas c'est lequel qui est le pire entre les deux, la méconnaissance ou la malhonnêteté. Mais dans un cas comme dans l'autre, le chef de police doit des excuses et des explications à ce niveau-là, parce que ce qu'il a dit aux médias, c'était pas vrai. L'autre chose... La fraternité des policiers, puis j'espère encore une fois que c'est pas des manœuvres syndicales puis qu'on nous dit la vérité, il faut toujours essayer de faire la part dans tout ça, mais eux autres sont capables de pointer très précisément les raisons pour lesquelles on a des délais d'intervention qui sont plus longs à Québec que dans le reste de la province. La fermeture d'un poste de commandement en particulier, si je ne m'abuse, et le manque d'effectifs en général. Est-ce que ça prend plus d'effectifs sur un grand territoire? Peut-être ça, faudrait nous l'expliquer aussi.
Je crois que la fraternité des policiers de la Ville de Québec embarque dans la danse aussi avec les hauts dirigeants de la Ville de Québec, puis peut-être le maire. Moi, voir 4 policiers sur des intersections à faire la circulation, ça me fait part de connaissance. Des gens qui sont embauchés comme agents de sécurité peuvent être formés justement pour faire la circulation. Mm-hmm. C'est possible de prendre des agents de sécurité, les mettre sur les intersections quand l'intersection ne fonctionne pas au niveau de l'électricité, puis ils font les gestes pour que les automobilistes puissent passer, puis ça peut bien se dérouler. Au pire, tu laisses un policier sur place. Si jamais il y en a un qui est méchant, bien le policier va partir avec son véhicule.
Mais juste ce matin, dans la construction dans le coin une fleur de lys, ça fonctionnait avec des agents de sécurité ouais. là, qui avaient des dossards en conséquence. Pourquoi est-ce qu'on le fait pas? Moi, c'est toujours ça la question que je pose. C'est une pénurie de main-d'œuvre?
C'est juste que la fraternité tient à ces postes-là.
Un genre de syndicat qui se dit ça, c'est dans nos tâches.
Mais les policiers, ils s'embauchent pour devenir policiers quand ils sont jeunes pour courir après les méchants.
Ça doit pas leur tenter non plus de
la
faire la
loi...
circule, là.
Et là, courir après les méchants, faire des belles choses pour la population. Je suis pas sûr que 4 policiers à 100 000 par année, tu les mets sur des intersections. Je suis pas sûr que c'est ça qui privilégie comme job.
Puis, tu sais, s'ils font ça, puis qu'on a un temps d'intervention qui est...
À 4 minutes.
On
ferme
pas...
nos gueules.
Absolument. On n'a pas un mot à dire. Mais là, c'est sûr que de voir l'un et l'autre... Bien là, il y a une réorganisation du travail qu'il faut qu'il se fasse d'une façon ou d'une autre. Il faut que ces gens-là se rassoient puis se parlent dans un climat où actuellement, on a besoin de se faire rassurer en tant que citoyen, plus que dans les 15 dernières années. T'sais, on sent qu'il y a de la violence autour, il y a des crimes, il y a des meurtres, il y a une guerre de gang.
L'enfant de 14 ans, ce qui s'est passé à l'abbé aussi,
ben
première
oui.
victime collatérale de ce dossier-là, qui est la guerre des stupéfiants, c'est une victime qui n'a rien à voir, selon les policiers là-dedans. Ça fait monter la crainte des gens.
C'est pas un bon temps pour nous dire qu'on est les pires sur les délais d'intervention au niveau de la police.
Ce que Martine Fortier dit, Fortier, c'est la présidente de la Fraternité des policiers, elle dit « Le délai de réponse moyen au SPVQ, c'est pas digne d'un service de police. » Elle est très critique à l'égard du service de police, puis c'est bien correct, on l'est nous autres aussi.
Uh-huh.
Mais ils doivent mettre de l'eau dans leur vin, c'est-à-dire, pour ce qui est de la circulation, les flics, en été, on va les laisser sur la route pour répondre aux appels d'urgence. Puis on accepte que la gang, exemple, entre guillemets, je dis n'importe quoi, je dis rien, ils ne me payent pas pour dire ça, mais Sécurité Sirois, on va former des individus, des agents de sécurité qui vont pouvoir faire ce genre de job-là quand les policiers seront en vacances cet été.
Il me semble que dans une situation comme celle-là, tu dois pas faire passer le discours syndical en premier ou le discours patronal en premier. C'est important, la perception qu'on a de notre corps policier. Pendant plusieurs années à Québec, je pense que c'est une perception qui a été positive. Mais là, plus que jamais, il faut avoir l'impression que ces gens-là travaillent pour nous autres. Puis c'est vrai du côté patronal, puis c'est vrai du côté syndical. Fait qu'il faut que les deux fassent attention à ce qu'ils disent. Quand le boss de la police dit qu'on est parmi les plus rapides à intervenir au Québec puis que c'est pas vrai, c'est une erreur. Quand le syndicat dit que c'est indigne d'un corps de police, mais qu'on est capable de voir qu'il y a certaines tâches affectées qui font peut-être en sorte que ça joue sur les délais d'intervention de façon négative, c'est pas bon non plus. Tombez pas dans une gamique boss versus syndicat, puis pensez à ce que vous représentez et pensez à la perception que nous autres, on doit avoir, le sentiment de sécurité qu'on veut garder pour continuer de vivre à Québec.
Ce qui me sidère un peu là-dedans aussi, c'est qu'on se bat pour avoir des montants supplémentaires provinciales, fédérales, dans divers dossiers, dont tout ça. Et là, on ne dit pas les bonnes choses aux citoyens. Est-ce qu'on le dit au gouvernement pour aller chercher un peu plus d'argent? C'est une question d'embauche de plus de policiers parce qu'on en manquerait ou autre, de pénurie. Ça me sidère de voir qu'ils scorent dans leur propre but aussi. Avec une communication comme « on est vraiment correct, on intervient en temps », comment est-ce que tu veux développer une stratégie si tu as besoin d'argent, si vraiment l'argent est temps, de cette manière-là?
Bien, tu sais, si c'est un besoin d'argent ou un besoin de ressources, bien, moi, je rêve de voir assis à la même table dans une présentation de presse le maire Marchand, le chef de police, le chef du syndicat, et pourquoi pas Jonathan Julien qui va faire oui de la tête en souriant. Il est très bon pour faire ça à côté de François Legault. T'as juste à le changer de tape et dire « Fais comme d'habitude, mon pit, ça va bien aller. » Et si tout le monde de la région se mobilise pour trouver le problème puis demander une chose en commun, ça va être facile de rallier la population. Là.
Jonathan dit « Je suis d'accord. Hey, je regardais les délais parce que, bon, on vous a parlé des services de police de la Ville de Québec là, qui sont parmi les pires au Québec pour répondre aux appels d'urgence pour ce qui est des délais. En passant, c'est pas une critique envers les policiers, là, c'est que les policiers sont, dans certains endroits, redistribués. Puis s'il y a un appel d'urgence qui est à quelque part, ben un policier doit couvrir deux zones.
Ah oui. Il est étendu, le territoire.
Des fois, il est seul, des fois, ils sont deux. Ça dépend du policier. Mais
la santé mentale, quand tu interviens, tu peux pas juste laisser ça au chemin. Comme si tu choisis, mettons, en tant que police, de la patrouille. Si quelqu'un fait un excès de vitesse, tu peux dire « J'aurais aimé ça le pogner, celui-là, mais ça sera pas aujourd'hui parce que j'ai un autre call. » Puis on sait que la santé mentale, c'est une grande majorité des appels à Québec. On va le laisser de côté, on reviendra plus tard.
C'est ça, puis quand il y a une grosse opération policière qui doit avoir lieu à Québec pour un appel d'urgence, puis il y a cinq véhicules qui doivent se présenter là, c'est cinq territoires qui ne sont plus desservis, qui doivent être desservis parmi les autres véhicules. Donc, je regardais, bon, pour ce qui est des polices, service ambulancier, on est pas mal là-dedans aussi, là. On est parmi les pires. Ouais. Écoute, je regarde parmi les pires, là, on a Saint-Augustin-de-Desmaures, 17 minutes 55 secondes. Fait que tu fais un arrêt du cœur, là, à Saint-Augustin-de-Desmaures, t'es mort.
Ça fait quelques années qu'ils nous le disent.
Personne te réanime, là.
Au moins une décennie.
Ça fait, ouais.
On a eu des pertes à cause de ça, des gens qui sont décédés, là.
Ouais, des gens qui disent on manque d'effectifs, puis il faut réorganiser la façon de travailler. C'est plate de voir que dans les délais puis dans les chiffres, ben il y a encore cette zone de risque-là.
Puis
effectivement,
le bouchage
qui fait la différence entre la vie et la mort dans certaines interventions.
Oui. Puis t'écoutes qui? Je comprends pas pourquoi ils sont pas écoutés sur le terrain. Puis pourquoi est-ce que, tu sais, on se pose la question. Bon, c'est peut-être nous autres qui sommes dans le champ puis commençons à parler dans l'arène quand on ne l'est pas. Là, on est plus des observateurs de la chose. Mais à l'urgence, quand on voit une série d'ambulanciers qui attendent ces civières avec leurs... Bon, les gens qui sont malades puis qui attendent un service à l'urgence, puis qu'il faut qu'ils restent avec eux tout le long. Puis nous, on se dit, on brainstormait, Yannick, on ne peut pas avoir une infirmière, un infirmier ambulant qui s'occupe de ces civières-là puis que les ambulanciers et l'ambulancière retournent sur le terrain rapidement. C'est sûr que ça joue dans le temps de délai aussi.
Quand la blonde s'est bêchée, là, un mois... On était supposé d'aller à Sainte-Foy, à l'hôpital. Finalement, il n'y avait pas de place. Ils ont décidé de l'envoyer à Québec. On est arrivé à Québec. Moi, je suivais l'ambulance. À un moment donné, l'ambulance rentre où le garage. Uh-huh. Puis moi, je m'en allais stationner mon véhicule. Puis par la suite, j'arrive dans la salle d'urgence. Ma conjointe vient d'être admise par ambulance. Puis on dit, il y a une petite file, là, ça va prendre un certain temps. Puis ça n'a pas pris tant de temps que ça. Ça a pris à peu près 20 minutes entre le temps où les ambulanciers sont arrivés puis le temps où ils ont réussi à la coucher sur une civière derrière. Mais elle me disait, Yann, il y avait plein de civières avec des gens couché dans le garage avec chacun deux ambulanciers. Fait que là toi, tu t'es pété une hanche, t'attends là, t'as pas de problème de cœur, t'as pas d'autres problèmes. Tu pourrais facilement rester sur la civière, assisté par un ambulancier qui reste là. Lui, c'est son chiffre de 8 heures.
Mm-hmm.
Il reste là, il s'occupe de tous les autres cas. Puis les ambulanciers viennent juste porter les patients. Là. Ça a déjà été proposé, ça a été refusé. Mais pendant que les ambulanciers attendent 20 puis 40 minutes, là, le temps de se faire enlever leurs patients puis le redonner à l'hôpital.
Ils sont pas sur la route.
Ils sont pas sur la route.
Ouais. Puis ça, le jouer d'inconvention, ça a l'air tellement rendu compliqué, complexe, voire même impossible, que ça fait en sorte qu'on parle des mêmes problèmes d'il y a 10 ans. Puis ça, ça devient enrageant pour le citoyen, tu sais, de dire on a le même problème depuis 10 ans puis on l'a pas réglé encore. T'sais.
Les syndicats, les gars, ça fait plus longtemps que vous êtes dans les médias que moi, vous êtes observateurs, vous êtes plus vieux, vous en avez vu plus. Les syndicats, à un moment donné, il y a peut-être aussi ceux pour qui ils travaillent, qui vont se retourner contre eux. Parce que là, je me demande dans la structure, si admettons c'est ça, si c'est « Ah, c'est pas dans nos tâches, non, faut qu'ils restent à l'intérieur avec les civières, parce que c'est de même ça a toujours fait, puis le procédé est comme ça, puis on veut pas revoir ci, puis on veut pas revoir ça. » Ce qui est étrange, parce qu'ils demandent quand même le contraire, mais c'est un exemple. Est-ce que les employés peuvent se retourner à un moment donné contre leur syndicat?
Ça va peut-être arriver à un moment donné. Je ne sais pas dans quel corps de métier ça va arriver en premier, mais le syndicalisme est passé d'un extrême à l'autre sur une période de 50 ans. On avait besoin de syndicalisme au Québec, alors que nos ancêtres se tuaient dans les usines,
la
dans des conditions inhumaines.
Avait besoin de ce syndicat-là.
Absolument, mais le syndicalisme s'est étendu à grandeur du Québec pour devenir probablement le plus gros pouvoir d'influence et de décision de la province. Puis, c'est une business, effectivement. Et il y a beaucoup de gens, que ce soit dans le domaine de l'enseignement, que ce soit dans le domaine de la santé, qui nous disent il y a des solutions, mais dès qu'on les propose, dès qu'on les sort du terrain puis qu'on les amène dans les bureaux de syndicats, c'est là que les solutions meurent au combat puis on se rend compte que on ne peut pas faire grand-chose. Puis un moment donné, on vieillit, puis on se tanne, puis on se blase, puis on suit dans la machine.
On accepte ou on sac notre camp.
En plein ça, exactement.
C'est comme les gens qui étaient dans le jus pendant la pandémie, des infirmiers, des infirmières qui ont dit, là, ça n'a plus de bon sens ce qu'on vit. Ils ont sacré le camp. Mais bon, eux autres se sont aidés, là, mais les gens qui avaient besoin d'eux à l'hôpital,
ouais, c'est ça, là.
Ils ont payé le prix. Mais veux, veux pas, les amis, il va falloir bousculer l'ordre établi à un moment donné. Il va falloir que quelqu'un arrive, homme comme femme, dire, là, ça a toujours été fait comme ça. Oui, on comprend, mais à partir de là, ça va être comme ça qu'on va le faire. Puis ça passe par demander l'avis des policiers, l'avis des ambulanciers, l'avis des infirmières. Puis c'est à eux autres qui devraient décider ce qui devrait être le mieux puis ce qui devrait être modifié. C'est pas les fonctionnaires en haut.
Ce qui me décourage, moi, c'est que normalement, on vote pour du changement en politique. Tu sais, l'idée de voter, c'est d'envoyer des gens qui vont arriver avec des solutions puis qui vont changer les choses dans le système. Sur une période de 25 ans, on les a toutes essayées, puis on a eu un nombre hallucinant de ministres de la Santé qui sont arrivés avec la solution, la formule. Puis c'était des gens qui venaient du milieu, mais tu as l'impression que tous ces gens-là se heurtent au même problème, que ce soit la sécurité publique ou la santé ou l'éducation. C'est que la machine, elle bouge pas. Puis quand t'arrives, blanc bec, nouveau ministre, le ministre pense qu'il va nous faire changer. Tu vas voir que dans 6 mois, on va l'avoir cassé, puis ils vont changer le ministre avant de changer nos façons de travailler. C'est des phrases que t'entends, ça, sur le terrain syndical. C'est malheureux.
À toujours refaire la même recette, Denis, tu vas toujours arriver au même résultat.
C'est sûr.
Sauf que là, c'est plus, c'est une affaire de syndicat, fait que c'est comme un spectre à côté, parce que, tu sais, peu importe les allégeances politiques, là, qu'on aime ou pas les partis qui sont passés les dernières années.
Ils sont toutes passées, sauf Québec
toutes
solidaire.
Passées. Ils ont tous essayé genre de revamper la santé.
Ce sera pas mieux. Ce sera pas pire, ce sera pas mieux.
Qu'on a été content ou pas de ce que le ministre fait, que ce soit de Barrette à Dubé, il y a quelque chose à comprendre, puis c'est que le spectre syndical est assurément trop fort.
Ouais.
Comment est-ce qu'on démantèle la... Ça va être de l'intérieur. Moi, je pense quand les profs ont dit là, on avait un devoir de réserve, mais dans la dernière grève, on va peut-être moins en avoir, puis on va peut-être commencer à dire exactement ce qui se passe dans les commissions scolaires, puis peut-être qu'on va commencer à dire aussi ce qui se passe avec notre syndicat.
Je pense que la politique du vase clos, en général, on a vraiment atteint les limites de ça. Tu sais, on voit des gens qui veulent s'installer dans un milieu maintenant, qui vont consulter les citoyens, qui vont faire eux-mêmes des audiences pour dire « Hey, nous autres, on monte un building, qu'est-ce que ça vous prend? Qu'est-ce qui vous dérangerait si on monte un building-là? Avez-vous besoin d'une épicerie au rez-de-chaussée ou d'un café ou whatever? » Maintenant, on doit consulter plus. Et je pense que le syndicalisme a fonctionné en bocal isolé trop longtemps, en disant « mes membres, puis le reste, je m'en sac. » On n'a plus le luxe de faire ça, les amis. Là. Ouais. Puis on vieillit, puis on va avoir besoin de plus de soins, on va avoir besoin de plus de bras, on va avoir besoin de plus de tout. Il va falloir commencer à penser à tout le monde quand on réfléchit, et pas juste le faire en vase clos. On n'a plus le luxe de faire ça.
Oui, puis d'écouter les professionnels aussi. Je regardais un article du Journal de Québec ce matin. Connais-tu la coroner Maître Francine Danet?
Je la connais pas, mais j'ai lu ses conclusions, par contre.
C'est une coroner de Gatineau, puis elle enquête beaucoup sur des victimes qui sont décédées en raison peut-être du travail des préposés aux bénéficiaires.
Ouais, mon Dieu, des histoires tristes là-dedans.
Puis normalement, quand un coroner rend son rapport, les politiciens sont supposés prendre acte et changer les choses. Puis elle a l'impression de réécrire les mêmes histoires, les mêmes rapports, puis elle recommande au gouvernement de mieux encadrer les préposés aux bénéficiaires. Écoute, ce qu'elle dit, c'est juste hallucinant, là. Puis moi, je veux pas mourir dans un endroit où il y aura des préposés aux bénéficiaires qui seront incompétents. Elle dit qu'il y a certains préposés aux bénéficiaires qui sont pas capables de savoir si des patients ou des clients sont morts ou s'ils sont juste endormis.
Ouais. Veux-tu que je te donne ma théorie cruelle là-dessus?
Ils sont pas capables de déchiffrer les signes vitaux.
Moi, je pense pas que c'est un manque de capacité. Je pense juste que c'est un manque d'humanité. Je pense qu'ils s'en sacquent. Je pense qu'ils sont dans leur routine quotidienne. Je pense qu'on manque d'humanité en général, puis que c'est un reflet de ça chez les préposés aux bénéficiaires. T'as-tu l'impression qu'on s'occupe de toi quand t'es à l'épicerie, puis que t'as les trois caissiers qui se parlent de l'épisode de Game of Thrones de la veille en regardant même pas ce qu'ils scannent? On ne considère plus les humains autour de nous autres. Et je pense que les préposés aux bénéficiaires, ben, quand ils sont habitués de faire affaire avec un monsieur qui fait de l'Alzheimer puis qui délire, ou une dame qui fait du Parkinson, qui crie à l'aide depuis 4 jours, ben, ils se disent ben, « c'est normal, elle n'est pas correcte ». Puis finalement, ils se rendent compte trop tard qu'elle avait la hanche fracturée. Ouais. C'est une histoire qu'on nous raconte
la
ce matin dans
le journal.
La dame
a fait de l'Alzheimer, était revenue à son stade enfant, puis elle criait « maman, maman ».
Aide-moi, à l'aide, maman.
Aide-moi, maman. Je veux dire, ça frappe. Quelqu'un qui avait tombé à terre, je ne sais pas si c'était dans cet article-là, mais quelqu'un qui avait tombé à terre, qui était mort, puis ils l'ont remis sa chaise.
Oui. Tu sais.
C'est mais... on en rit tellement c'est absurde.
Mais c'est, plus... non, c'est... mais c'est plus des connaissances, ça, Yann. C'est juste un manque d'humanité. Tu sais, t'es en train de parler de la game du Canadien. Ah, oh, Papier est tombé, on va le ramasser.
La game n'est pas finie.
Hier, Caulfield, on rassit bonhomme, il est mort, bonhomme.
Parce
je veux dire,
honnêtement,
on s'en rend pas compte.
Pas le temps de mourir, moi, je finis en 5 minutes.
Mais je trouve ça intéressant.
Tellement.
Ce que tu dis, parce que je me dis, crime, nous, on prendrait le pouls et autres, puis on n'a pas de connaissances. Ouais. Fait que c'est sûr que la situation que Denis décrit, elle me fait réfléchir.
Ouais. Mais ce que la coroner dit, c'est qu'il va falloir encadrer ce type de profession-là.
Ben
quand il y aura des erreurs qui seront commises, ben ces gens-là devront être punis.
Parce que là, ce qui va sortir, c'est est-ce que c'est les préposés aux bénéficiaires qui ont été formés en pandémie dans une ressource accélérée? Ou alors, ça va sortir, là, c'est sûr.
Puis je vais me permettre mon petit côté preacher. Si on recommence toute la gang à être un petit peu plus humain, un petit peu plus à l'écoute, un petit peu plus empathique, bien, ça va peut-être paraître dans ces services.
Vous allez pas
on a tout notre job à faire.
Vous n'allez pas raconter des histoires sur moi. Ça, c'est parfait aussi à la radio. Vous allez être un peu plus humain et empathique.
Il y a... Merci Pascal. T'as des beaux mux, Pascal.
Il y a quelqu'un qui nous écrit, puis c'est super triste. Je suis de Rimouski, dans une petite ville de 50 000 habitants. Mon père a eu besoin d'une ambulance. Ça a pris 32 minutes.
Ouais.
Ça ne fait aucun sens. Il avait mal au ventre et fièvre. Fait que sûrement qu'il a été coté moins urgent, là. Mais il dit qu'il est décédé suite à son opération d'urgence. Arrivé à l'hôpital le matin même, il avait l'intestin perforé.
Ah, c'est d'une tristesse. Ce type d'histoire-là, on pourrait en avoir énormément.
Puis on vieillit Je veux dire, plus ça va, plus on va être nombreux à vieillir, et plus ça va, plus l'espérance de vie augmente. Ça veut dire qu'on va être de plus en plus nombreux à être dans des états où on va avoir besoin de soins, où on va avoir besoin d'aide, dans des états semi-végétatifs aussi. On a beaucoup de réflexions à faire là-dessus.
Denis, il reste à peu près une minute. Je pense que le chef du Parti conservateur du Québec va nous appeler dans les prochaines secondes, parce que d'après moi, il allait au match ce soir. Là. Il y avait quelque chose à dire avant. Il est déjà là. Je ne sais pas trop ce qui s'est passé, là. Éric Duhaime.
Ouais.
Mais il va y avoir des annonces à faire dans les prochaines secondes, puis il sera avec nous. Mais juste avant, je te l'ai dit de façon privée, je te remercie beaucoup d'avoir embarqué dans la danse pour ce qui est du gala de lutte. On a annoncé le soir 17 500 $ puis aujourd'hui, on est très fiers, avec la gang de la Bouchée généreuse puis de la NSPW, d'annoncer aux auditeurs que c'est maintenant 20 750 $ qu'on a ramassé.
Super.
Puis en jasant avec M. Gravel, il mentionnait que lui, quand il va acheter chez Costco pour la Bouchée généreuse, c'est un 66 % de rabais qu'il y a. Donc, le 20 000 $ qu'on donne se transforme en 60 000 $.
C'est super. Puis je sais que Véro et Audrey sont allés donner un coup de main à la Bouchée généreuse ce matin.
On était là,
puis,
aussi.
Ouais, je pense que Véro a pogné de quoi. J'ai pas eu le temps de parler à Audrey, mais j'ai hâte de parler aux filles à 14 h cet après-midi. C'est toujours le fun, des initiatives comme ça. Puis moi, l'amateur de lutte que je suis, tu me connais, Marceau, là, ça fait des années et des années que je suis la lutte à Québec et ailleurs. Puis j'ai toujours rêvé qu'il y ait ce genre de collaboration-là. Vous avez trouvé une bonne cause, vous avez donné de votre temps, de votre énergie. Ça a été facile d'embarquer puis de vous suivre là-dedans. Ça a été un bel exemple de leadership de ta part, Yann, et de la part de Steve. Puis j'espère qu'on va continuer à faire ces choses-là parce que partout autour de nous, les gens en ont besoin. On n'est pas à l'abri de ça, personne.
Non, pas avec la clientèle qu'on a vue ce matin.
Puis vendredi soir, moi, j'ai vu des sourires partout autour de moi. Mm-hmm. C'était du monde qui était heureux de donner. C'est du monde qui était heureux d'être là. C'était du monde qui était heureux de voir un spectacle, des gens impliqués. C'est une soirée qui a fait du bien aux gens qui étaient sur place et qui va faire du bien à des gens qui en ont besoin dans la ville de Québec. Bravo, Yann.
Vas-tu lutter l'année prochaine, Denis?
Eh hey boy, je pense pas. C'est
la
pas
seule,
ma place.
La seule demande que j'ai faite à Steve Houtet, c'est que l'an prochain, tout comme cette année, la bière doit rester à 3 bières.
Pas d'inflation.
Pas d'inflation.
Pas d'inflation.
Je suis d'accord avec ça, M. le Président.
Denis Gravel, merci.
Thank you.
Bye-bye.
Marceau, le soir.
Salut, c'est Marceau.